La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. On en parle car depuis hier, depuis les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et pour la première fois dans l'histoire de la compétition, eh bien l'arbitre a la possibilité d'utiliser la vidéo assistance. Alors vous le savez, vous qui êtes sur le continent, ce sujet est sensible après le fiasco de la finale retour de la Ligue des Champions africaine. En tout cas, depuis le début de la CAN, les Béninois, les Ghanéens, les Congolais et les Sénégalais se sont plaints de l'arbitrage. L'utilisation de la VAR aurait-elle changé la donne? Fallait-il l'introduire dès la phase de poule et ne pas attendre finalement les quarts de finale? On en parle dans une trentaine de minutes, tous ensemble. J'ai passé une heure et demie avant d'arriver dans ce studio à lire vos messages. C'est dire si le sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes très nombreux. Donc continuez, 33 9 693 693 70 et vos réactions sur Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. On va commencer avec Ali Amadou qui nous appelle de Ségou au Mali. Bonjour Ali Amadou.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Vous avez des questions sur le code de conduite dans la cité religieuse de Touba au Sénégal.
Tout à fait Juan. Le grand calife de Touba, de la confrérie des Mourides, a diffusé un long communiqué dans lequel il rappelle les règles fondamentales et organise la ville sainte et promet des sanctions à ceux qui ne les respecteront pas.
Oui.
À ce propos, j'ai quelques questions. Le Sénégal étant un État laïque, sous quel régime légal se trouve la ville de Touba? Ces règles s'appliquent-elles à l'ensemble des habitants ou seulement aux Mourides?
Ah, c'est vrai que dans ce communiqué, le grand calife Sérigne Moumtakam Baké rappelle son engagement à faire respecter, je le cite, « tous les interdits et toutes les pratiques prohibées dans la ville sainte ». Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour à tous.
Correspondant permanent de RFI au Sénégal. Guillaume, s'intéresser à la ville de Touba, à la ville sainte des Mourides, et notamment à son fonctionnement et à son organisation, c'est d'une certaine façon plonger dans l'histoire contemporaine du Sénégal.
Exactement, dans une grande part de cette histoire. Touba, cette ville a été fondée en 1888 par Cheikh Amadou Bamba, le père du mouridisme. Il a été longtemps en conflit, en lutte contre le colon français. Il a notamment été envoyé en exil au Gabon en 1895, puis en Mauritanie. Au final, la France a d'une certaine façon fini par céder en lui accordant un droit, celui de s'installer officiellement là où il le voulait, à Touba. Ce droit lui a permis de fonder une mosquée, une école coranique et ses habitations. Cette autorisation, Juan, elle a évolué dans le temps pour devenir l'équivalent d'un titre foncier qui s'est prolongé. Ce titre a perduré à l'indépendance. Il a été revu en 1976, donc très récemment, puis agrandi en 2005. Légalement, si Touba est soumise aux lois du Sénégal, c'est en quelque sorte une immense concession. Certains évoquent une forme de bail attribué ensuite aux descendants de Cheikh Amadou Bamba, aux différents ralifs. Et c'est au sein de cette concession que les autorités de la confrérie Mouride imposent les règles citées par notre auditeur. On peut citer l'interdiction du tabac, de l'alcool, de la musique, avec vigueur, mais aussi avec beaucoup de souplesse. On peut noter aussi dans cette histoire qu'Abdoulaye Wade, quand il est devenu président, il a lui souhaité d'une certaine façon remettre de l'État à Touba en prenant par exemple la gestion de l'hôpital ou encore des routes, situation qui perdure depuis.
Ouais, effectivement, Abdoulaye Wade a pris de nombreux décrets pour donner une gestion à la ville sainte de Touba, mais dans les faits, Guillaume Thibault, ces réformes ont débuté dès les années 70, car Touba grandissait, se développait, et on peut le rappeler, c'est aujourd'hui la seconde ville du Sénégal avec plus de 800 000 habitants.
D'où l'importance de lui permettre une bonne gestion, une gestion appuyée par l'État. Entre 75 et 80, un premier ralife a demandé l'appui de l'État pour nettoyer la ville, tout simplement, puis ensuite pour la sécuriser. Pourquoi ? car les forces de l'ordre étaient jusque-là interdites au sein de la cité et les malfrats l'avaient bien compris. Ils venaient donc se cacher dans la ville sainte. En 1986, une compagnie de gendarmerie, la première, a été spécialement créée. Aujourd'hui, Touba fonctionne comme toute ville du Sénégal. Il y a un maire, on y vote lors des différentes élections, même si certains critiquent le fait notamment que la parité n'y soit pas appliquée lors des élections locales. L'État y travaille donc en étroite collaboration avec les responsables de la confrérie Mouride pour faire appliquer la loi du Sénégal et aussi respecter ces fameux interdits religieux.
Oui, et ces règles religieuses, c'était la seconde question d'Ali, s'imposent à tous.
Oui, mais avec beaucoup de tolérance, rien à voir avec l'application de la charia. Les visiteurs, les touristes, les religieux ou non qui passent à Touba peuvent parfois commettre des impairs. On leur signale, on leur demande d'arrêter, mais sans violence. L'idée, dans le fond, étant assez simple, celle de respecter la sainteté de la ville.
Ouais, c'est passionnant de remonter comme ça dans l'histoire du Sénégal. Ali Amadou, vous aviez une seconde question.
Oui, Juan. Comment la confrérie des Mourides compte-t-elle appliquer les sanctions ?
Alors, Guillaume, là aussi bonne question, vous avez évoqué l'étroite collaboration entre la confrérie Mouride et l'État. Le dispositif, en tout cas, est précis, la loi est claire, seule la justice sénégalaise s'applique à Touba.
On parle de surveillance hybride pour Touba. La confrérie Mouride s'appuie sur les chefs de quartier, parfois sur la dénonciation, et sur des équipes qui effectuent des rondes dans les rues, notamment l'organisation Safinatou Aman. Si on traduit de l'arabe, ça pourrait dire l'arche de la sûreté. Ces organisations, elles jouent le rôle de service d'ordre dans les rues. Si une personne est prise en faute, par exemple en train de fumer ou d'écouter de la musique, il lui est demandé d'arrêter. En cas de problème, si elle refuse, ce ne sont pas ces structures mourides locales qui appliquent la loi, mais les forces de l'ordre qui sont présentes en ville. L'État du Sénégal garde l'entière responsabilité de la sécurisation à Touba et fait appliquer au mieux, dans le calme en tout cas, les réglementations qui sont imposées par la confrérie mouride.
Ali Amadou, a-t-on répondu à vos questions ?
Tout à fait, Juan, comme toujours avec vous.
Ah bah écoutez, surtout grâce à nos experts et nos envoyés spéciaux, correspondants permanents, c'est le cas ce matin de Guillaume Thibault. Guillaume, merci à vous.
Merci à vous, bonne journée.
Et permettez-moi de vous souhaiter au nom de toute l'équipe un joyeux anniversaire. Quel beau cadeau que de commencer la journée avec les auditeurs de RFI, Guillaume. À bientôt. 8h17.
Merci.
8h17 à Dakar, au Sénégal. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Heike Schmidt du service international de RFI nous rejoint. Bonjour Heike.
Bonjour Juan.
Nous avons reçu des questions sur la crise qui secoue Hong Kong, crise que vous suivez et que vous avez d'ailleurs bien suivi, puisque je le rappelle, vous êtes une ancienne correspondante permanente de RFI en Chine. Des questions qui nous sont posées par Idriss. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Heike Schmidt et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et très belle chance aux éléphants de Côte d'Ivoire ce soir.
Très bien, oui, Côte d'Ivoire, vous êtes sur place. On souhaite évidemment que le meilleur gagne. Hein. Je ne prends pas parti, je reste neutre, bien évidemment. Vous aviez des questions, Idriss, sur cette crise à Hong Kong ?
Exactement. Juan, depuis plus d'un mois, les Hongkongais manifestent pour réclamer l'abandon total du projet de loi d'extradition vers le continent. Et la dirigeante de Hong Kong vient d'annoncer la mort du projet de loi. Alors Juan, comment interpréter cette annonce ? Le projet de loi est-il définitivement annulé ?
Ah, ça se
fait. Et j'aimerais également
On va déjà répondre, si vous le permettez, à ces deux premières questions qui sont très intéressantes avec Schmidt. C'est vrai que lorsque Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, affirme que le projet de loi est mort, que faut-il comprendre ? Est-ce que ça signifie que le projet de loi est définitivement abandonné ?
Oui, c'est difficile à dire. Bonjour Idriss. Vous vous posez en fait la même question que de très très nombreux Hongkongais. Carrie Lam, la chef du gouvernement, a en effet déclaré que le projet de loi d'extradition était mort et qu'elle n'avait aucune intention de le remettre sur les rails à une autre date. Mais est-ce que cela veut dire vraiment que cette loi ne verra jamais le jour ? Les manifestants, en tout cas, ont du mal à y croire, car bizarrement, Carrie Lam refuse jusqu'à présent d'annoncer le retrait pur et simple de ce projet controversé. Alors, les contestataires ont donc aussitôt rejeté, je cite, ce jeu de mots de la dirigeante, qui par ailleurs n'a jamais été aussi impopulaire.
Ouais, il faut dire tout de même que le terme mort ne fait pas partie du vocabulaire juridique.
Alors, selon la loi, il n'y a que deux possibilités. Soit le projet est suspendu, soit il est retiré. Le terme « mort » n'existe en effet pas dans les textes de loi. Donc, théoriquement, le gouvernement pourrait le ressortir des tiroirs à tout moment. Et ce n'est qu'à la fin de la législature, en juillet 2020, qu'il disparaîtra en quelque sorte automatiquement du programme parlementaire. Et c'est d'ailleurs pour cela que Joshua Wong, la grande figure du mouvement pro-démocratie, a accusé Carrie Lam de mentir au peuple hongkongais et aux médias étrangers. Les manifestations risquent donc de continuer.
La contestation va donc continuer, mais dans les faits, avec Schmitt, on voit mal comment cette loi qui, et notre auditeur le rappelait, permettrait l'extradition de suspects, voire de dissidents, vers la Chine, revienne un jour sur la table.
Oui, c'est effectivement très improbable. C'est aussi ce que le professeur Jean-Pierre Cabestan, qui est un fin connaisseur de Hong Kong, nous a confirmé dans une interview. Il ne croit pas du tout que le projet de loi, qui est actuellement suspendu, puisse encore aboutir. Le sinologue pense même que Carrie Lam est tombée en disgrâce à Pékin pour sa mauvaise gestion de la grogne hongkongaise et qu'elle sera remplacée dès que la Chine aura trouvé un successeur bien sûr plus crédible que Carrie Lam.
Donc ce n'est pas Carrie Lam qui pourra restaurer la confiance.
Non, même si elle a fait des efforts, elle propose notamment un dialogue sans condition, mais sans succès. 8 associations d'étudiants ont immédiatement dit non à cette idée. Et avant tout dialogue, les étudiants veulent que le gouvernement réponde d'abord à 5 revendications. Ils demandent surtout le retrait formel et définitif du projet de loi sur les extraditions, puis une enquête indépendante sur les violences policières lors des manifestations et aussi la démission de Carrie Lam.
Évidemment. Idriss, je vous ai interrompu tout à l'heure. Je vous ai coupé la parole. Vous aviez une dernière question.
Oui, bien, Juan, une dernière question. Juan, j'aimerais également savoir comment a réagi Pékin face à cette annonce de Carrie Lam.
Heike Schmitt.
Alors, c'est silence radio. Pékin n'a pas officiellement réagi à cette annonce que le projet était mort. D'ailleurs, la chef du gouvernement de Hong Kong a toujours dit que cette loi n'avait pas été proposée à la demande de Pékin, mais sur sa propre initiative. On peut penser quand même que Carrie Lam a voulu anticiper la volonté de la Chine. Une façon de se montrer peut-être bon élève aux yeux du parti communiste en vue d'un deuxième mandat. Bref, pas de réaction officielle. Donc, c'est d'ailleurs la preuve que la Chine respecte le statut spécial de Hong Kong, écrit le Global Times. C'est un quotidien proche du Parti communiste. Est-ce que Pékin a tiré pour autant les ficelles en coulisses? C'est loin d'être exclu. Pékin veut bien sûr le calme et qu'il le calme revienne, car le chaos est mauvais pour les affaires internationales.
Oui, Pékin veut le calme, mais pas question pour l'instant de libérer les manifestants qui ont participé, on s'en souvient, à la mise à sac du Parlement local le 1er juillet. Merci beaucoup, Heike Schmitt, d'être venu répondre à Idriss, fidèle auditeur qui nous appelle d'Abidjan. Allez, on repasse très très vite au standard. On a des questions sur l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, condamné il y a quelques jours par la Cour pénale internationale. Bonjour Julien.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous écoutons.
Oui, Juan. Bosco Ntaganda a été reconnu coupable par la CPI de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il s'est rendu de lui-même à la CPI en 2003 et pourtant il a plaidé non coupable. Alors je voulais savoir comment expliquer ce paradoxe et qu'est-ce qui l'avait poussé à se rendre.
Alors ce n'était pas en 2003 mais en 2013 et votre question est vraiment très intéressante puisque c'était et c'est toujours la seule fois qu'un suspect se rend volontairement pour être détenu à la Cour pénale internationale. Bonjour Karine Bonneau.
Bonjour.
Responsable justice internationale à la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. La question de Julien nous permet de revenir sur les raisons qui ont poussé en mars 2013 Bosco Ntaganda à se rendre à l'ambassade des États-Unis au Rwanda et à demander son transfert devant la CPI. Que s'est-il passé à l'époque? Que sait-on?
Alors, c'est pas tout à fait clair, hein, quelles sont exactement les raisons qui ont poussé Ntaganda à se rendre. Ce qu'on a pu lire aussi, c'est que Bosco Ntaganda a était en danger suite à la fin du groupe rebelle des M23, donc qui dirigeait le M23. Le M23 était en déliquescence et pour se protéger, craignant pour sa vie, il se serait réfugié au Rwanda et à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Alors, aurait-il demandé son transfert à l'AE? C'est une version. Une autre version dit au contraire qu'il pensait se protéger surtout, et comme c'était l'ambassade des États-Unis et l'ambassade des États-Unis n'avait pas ratifié le statut de la CPI, il pensait pas forcément être transféré à la haie.
Oui, parce qu'il faisait l'objet, il faisait l'objet depuis plusieurs années d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc en allant à l'ambassade des États-Unis, il pensait peut-être se protéger. Ça, c'est une des pistes possibles.
Voilà, il pensait effectivement que ce pays-là ne coopérerait pas puisque les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de la CPI. Ensuite, c'est vrai qu'il était visé par un mandat d'arrêt et que ces conditions de détention seraient sûrement plus vivables à la haie qu'en RDC s'il était arrêté en RDC.
Ouais, en tout cas, le 18 mars 2013, il se rend à l'ambassade des États-Unis. 4 jours plus tard, il est transféré à la Cour pénale internationale. Et une fois devant les juges, il plaide non coupable. Donc, il se rend, mais pour plaider non coupable.
C'est-à-dire qu'il s'est rendu pour sauver sa peau, surtout, je pense. Il s'est rendu pour se protéger, peut-être aussi pour mettre fin à une traque qui durait depuis longtemps. Mais effectivement, il n'a absolument pas reconnu sa responsabilité dans les crimes pour lesquels il était poursuivi devant la CPI. Et jusqu'au dernier moment, ses avocats ont défendu sa non-culpabilité.
Ouais, en tout cas, il a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation, dont 13 pour crimes de guerre et 5 pour crimes contre l'humanité. Julien, vous aviez une autre question sur ce dossier, Bosco Ntaganda.
Oui. Je voulais savoir si un appel des irrégularités pourrait-elle faire annuler les verdicts, comme ça a déjà été fait plusieurs fois à la CPI lors des jugements.
Oui, vous faites notamment, j'imagine, référence à l'affaire Jean-Pierre Bemba, lui aussi poursuivi pour sa responsabilité de commandant. Finalement, ensuite, il a été acquitté en appel. Karine Bonneau, soyons voilà le plus clair possible, Bosco Ntaganda, il dispose d'une trentaine de jours, hein, 30 jours, je crois, pour faire appel du verdict. Est-ce que il peut y avoir des irrégularités qui pourraient annuler justement ce verdict?
Alors, effectivement, son avocat dispose d'un mois pour faire appel. Des irrégularités, pour l'instant, qui sont pas tellement mises en avant, en tout cas. C'est un procès qui, au contraire, a été plutôt salué pour sa tenue assez rapide, contrairement aux autres, en tout cas, 3 ans. Et puis, sur le fait que la procureure proposait vraiment des charges assez fortes. Ensuite, effectivement, il y a eu une histoire avec l'une des juges du procès qui, à la fin du procès, a voulu quitter la procédure. Il y a toute une affaire sur est-ce que cette juge peut continuer à travailler sur ce procès ou pas. Je ne pense pas que ce soit une raison pour dénoncer l'irrégularité du procès, absolument pas. Après, effectivement, un appel, l'affaire Bemba a bien démontré qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour l'instant, c'est pas un procès qui laisse supposer de telles irrégularités qui annuleraient ou qui acquitteraient Ntaganda.
Ouais.
Mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais, évidemment. Julien, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci à vous, Julien. Précisons tout de même que la peine n'a pas encore été prononcée. Hein. Il est reconnu coupable, mais on ne sait pas coupable et il sera certainement condamné. Certains parlent de 30 ans de prison, prison à perpétuité. On saura ça évidemment dans les prochaines semaines. Karine Bonneau, on vous avait également contacté pour d'autres questions concernant un autre homme également devant la Cour pénale internationale. On en parle ces jours-ci sur RFI. Il s'agit du Malien Mohamed Alassane. Je ne sais pas si votre emploi du temps vous permet d'être avec nous demain matin en direct. Je vous dis ça puisqu'il nous reste 30 secondes, Karine Bonneau.
Ah si, pas de problème.
Pas de problème.
Si
alors justement, Marius qui nous posait les questions d'Abidjan, est-ce que vous êtes libre demain, Marius?
Tout à fait, je suis libre demain.
Eh ben voilà, tout est fait, tout est prêt. Merci à tous les deux, Karine Bonneau de la Fédération Internationale de la Ligue des Droits de l'Homme et Marius, merci de votre patience et on vous rappelle évidemment, demain matin, dans 30 secondes, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après pour notre débat du jour. Nous dresserons ensemble un premier bilan de l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations et on lancera évidemment le débat sur la VAR, la vidéo assistance, puisqu'elle est en vigueur depuis hier, les quarts de finale de la CAN.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.